Il attend bien patiemment. Il n'a pas le choix, remarquez. C'est notre notaire Pierre-Nicolas Ergotte. Comment ça va, maître ?
Ça va, merci, bonjour.
Est-ce que c'est un jour à aller chez le notaire ?
Et tous les jours, on peut aller chez
d'accord.
le notaire.
On ne va pas plutôt quand il pleut, quand il fait moche
Bah, pourquoi ? Non, mais c'est pas gentil, ça.
Là, c'est les impôts, on fait ça en général les jours fériés, par
non,
exemple.
Non, mais même quand il fait beau, on peut venir chez le notaire. Venir,
Le printemps chante également chez nos notaires. Donc, tous les 15 jours, nos notaires répondent à vos questions en direct pendant une heure. C'est maintenant 9h, 10h. Qu'est-ce qu'on pose comme question à un notaire, Pierre-Nicolas ?
La plus classique, ou les plus classiques, c'est sous quel régime je me marie, qu'est-ce que je peux faire,
comment je peux déshériter mes enfants.
J'allais y venir sur voilà. les questions polémiques. Oui, ça en fait partie aussi. Comment est-ce que je peux organiser ma succession, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en avance,
comment je peux payer moins, parce que finalement ces questions-là, c'est toujours ce
comment
que ça sous-tend.
Comment éviter que mes enfants payent
des impôts. Donc tout ce qui est immobilier, parce que vous occupez également des achats des ventes.
Bah, j'achète ma maison, je vends ma maison, j'achète mon appartement, je le vends. Comment est-ce que ça se passe, qui paye, comment.
Le marché reprend là tout doucement ou c'est encore un peu à tonne?
Écoutez, en ce mois d'avril, ça a été un peu mieux. Voilà.
Ah bien, il faut dire qu'on pouvait décemment pas être pire.
Voilà, oui, c'est ça.
Donc
c'est
une petite, un petit frétillement.
Ah, on ne peut pas parler de reprise, il faudrait que ça s'inscrive dans la durée pour pouvoir dire ça a repris, mais là tout de suite, voilà, le mois d'avril a été déjà un peu mieux que les précédents mois.
Donc vous avez une question à poser à un notaire de Nation, par exemple, cadeau que vous souhaitez faire à vos enfants, à vos neveux, à vos petits-enfants, 03 83 36 20 20. On en parle ce matin jusque 10h, alors je le dis toujours dans cette émission, appelez plutôt au début qu'à la fin. Parce que ça traîne un petit peu au début, puis à la fin, il y a trop de monde et on n'a pas le temps de prendre tous les auditeurs. 03 83 36 20 20, Pierre-Nicolas Ergotte, notre notaire, avec nous jusque 10h sur France Bleu Lorraine. Avec notre notaire Pierre-Nicolas Ergotte qui répond à vos questions, 03 83 36 20 20. Et nous allons démarrer tout de suite, maître, avec une question de Joël qui nous appelle de Mousset. Bonjour Joël.
Et bonjour madame, bonjour maître.
Bonjour.
On vous écoute Joël.
Et alors, je voudrais poser une question à maître, parce que j'ai perdu mon papa, ça va faire un an, le 10 mai.
Oui.
Et je n'ai toujours pas de nouvelles du notaire.
Alors, comment ça s'est passé le début de la succession, Joël, normalement ?
Je ne sais pas du tout, parce que papa, il était sur tutelle.
Oui.
Et papa, il n'avait rien.
Alors, je vais laisser maître Ergotte répondre.
Alors, déjà, il faut savoir s'il y a un notaire qui a été saisi.
Oui, il y a un notaire qui a été saisi, le tuteur m'a dit que c'était sur Bruyère.
D'accord. Alors, peu importe l'identité du notaire, dans ces cas-là, quand il y a une tutelle, en fait, ça passe par l'intermédiaire de la personne qui était tuteur. Donc, il y a peut-être un organisme qui s'occupait de la tutelle de votre papa ?
C'était un tuteur d'Épinal.
Oui. Dans ce cas-là, c'est lui qui adresse les éléments au notaire. Et ensuite, le notaire va reprendre attache avec les héritiers pour qu'on puisse organiser le déroulement normal de la succession. Alors... Quand il y a des enfants, compte tenu des abattements de 100 000 euros par enfant et du fait que le patrimoine de votre papa, de ce que vous dites, n'était pas très important...
Il n'avait rien du tout, papa.
Voilà. Donc, il n'y a pas forcément d'urgence, entre guillemets, d'un point de vue fiscal, puisque quand on doit déposer une déclaration de succession et payer des impôts, il faut le faire dans les 6 mois du décès pour éviter des pénalités. Mais des pénalités sur zéro d'impôts à payer, ça fait toujours zéro. Donc, c'est pas dramatique que ça ait pris plus de temps. Mais à mon avis... Et si je peux me permettre, il faudrait reprendre de votre côté la tâche de ce notaire et dire le tuteur a dû vous envoyer les éléments de la succession, nous on aimerait bien que ce soit régularisé, et puis faire le point avec lui, savoir pourquoi ça n'a pas encore avancé. Peut-être qu'il y a un blocage, ou il n'a peut-être pas toutes les pièces, il lui manque peut-être des informations.
Est-ce que vous avez essayé d'appeler Joël ? Est-ce qu'on vous répond ou vous n'avez pas contacté le notaire ?
J'ai appelé le tuteur parce que c'était moi qui avais mis papa sur tutelle.
Oui.
Et ils m'ont dit que depuis le mois de juillet,
ils n'ont pas de nouvelles.
Ils ont tout envoyé. Mais moi, j'ai appelé le notaire de Bruyère.
Oui.
Devait me rappeler, mais toujours pas de nouvelles. Ça fait 4 mois.
Bon. Oui, parfois. Alors, si je peux me permettre, n'hésitez pas à insister ou voir à prendre rendez-vous pour vous faire expliquer les choses. Chez tous les notaires, ce sont des rendez-vous qui ne donnent pas lieu à une rémunération, un rendez-vous d'explication, de conseil. C'est parfois peut-être que le notaire était un peu submergé. Peut-être qu'au moment où le dossier est rentré, il n'avait pas toutes les informations nécessaires. Il n'a pas pensé à le demander.
Donc un an, c'est Joël. Elle est dans son droit de faire accélérer les choses.
Bien sûr, j'aimerais que ça se termine.
Voilà.
J'aurais une question à vous poser.
Allez-y, Joël, je vous en prie.
Parce que c'était pas le notaire que j'ai eu, c'était sa secrétaire.
Oui.
Et parce que moi, je lui avais dit que je refusais la succession.
Oui.
Ah.
Parce qu'il y a des problèmes de famille.
Oui, qui vous regardent, Joël. Et donc, votre question, ce serait quoi ?
Eh ben, elle me dit que il faut qu'elle recherche tout, parce que du fait qu'on était 10 enfants.
Oui.
Mais j'ai un frère qui est décédé. Alors, elle me dit qu'il faut qu'elle recherche. Tous les neveux et nièces, c'est les petits-enfants, c'est ça que je ne comprends pas.
Alors en fait, ce qui est compliqué, mais vous ne nous l'aviez pas dit avant, c'est que plus il y a d'héritiers, plus ça se complexifie. Oui. Hein, puisqu'en fait, on va avoir plus d'interlocuteurs. Et effectivement, quand il y a des personnes qui sont décédées ou qui renoncent à la succession, leur droit à la succession passe à leurs héritiers directs. Donc, pour vous qui avez peut-être des enfants, Joël?
Ben moi, j'ai un fils, oui.
Ben si vous, vous renoncez à la succession, derrière, la succession va être dévolue à votre fils.
Et lui, il faudra
qu'il renonce aussi.
Et s'il refuse, est-ce qu'on continue?
Oui.
S'il a des enfants?
Oui, c'est ça.
Et les
neveux, nièces?
Y compris
s'ils sont mineurs. Alors, c'est D'accord. là que ça se complexifie aussi.
Okay.
C'est que si on est un héritier mineur, là, il faut une renonciation, mais il faut passer devant le juge.
D'accord. Votre fils a des enfants, Joël?
Oui, il a une petite fille.
Ah,
de
ah oui, donc ça se complique. Qui est mineur, oui, 4 ans.
C'est peut-être pas une grande idée de renoncer dans ces cas-là, parce qu'au final, vous allez mettre sur le dos de votre fils et de son enfant des difficultés supplémentaires.
Oui, mais j'imagine que Joël, elle veut pas de mauvaise surprise. C'est peut-être pour ça qu'elle renonce. Non, c'est pas pour ça, Joël.
Il faut évidemment rencontrer le notaire et se faire faire un état des lieux sur le patrimoine.
D'accord.
Voilà, s'il y a effectivement plus de dettes que d'actifs, il faut se poser la question de renoncer. Dans ces cas-là, on peut lancer, entre guillemets, les grandes manœuvres.
D'accord.
Mais si c'est pas risqué ou que même que ça couvre, si vous voulez, il n'y a pas besoin de que vous récupériez de l'argent ou que ce soit un calcul qui soit vénal. Hein. Il suffit de dire bon bah voilà le peu de patrimoine qu'il y avait couvre les dépenses de la succession. Et ben on signe les documents et puis terminé.
Ah oui, il faudrait pas que je refuse alors.
Faites-vous expliquer par le notaire. C'est compliqué de vous dire comme ça. Moi, j'ai pas l'état du patrimoine.
Il faut aller voir le notaire.
Je connais pas la composition de la famille, c'est certain.
Et le fait qu'il y ait 10 héritiers, ça explique peut-être.
Ouais, sans doute. Peut-être qu'il y en a qui sont pas joignables.
Ouais.
Vous voyez, c'est compliqué hein, dans ce genre de situation.
D'accord.
Et en plus, vous dites qu'il y a des difficultés dans la famille. C'est quelque chose qu'on rencontre assez régulièrement. Il y en a un qui fait un peu sa forte tête ou une, peu importe qui. Mais on n'arrive pas à les joindre ou ils veulent pas venir ou ils veulent embêter les autres. Donc voilà.
Donc c'est normal.
À l'extrême, nous, on essaye de mettre de l'huile dans les rouages. De faire venir tout le monde, voire séparément pour essayer de rétablir un petit peu le contact ou au moins d'arriver à terme pour le dossier. Et puis, si ça se passe vraiment mal, après, on va voir un juge. Mais c'est vrai que quand il y a peu de patrimoine, tout le monde a du temps et de l'énergie.
Et ce que je comprends, c'est que Joël, elle a le droit d'aller voir le notaire, que ça ne lui coûtera certainement rien du tout. Elle le demande et qui va lui expliquer exactement les tenants et les aboutissants. Voilà.
Tout à fait.
Papa, il n'avait rien. De toute façon, il n'y avait plus de dette parce que moi, quand je l'ai mis sur tutelle, le tuteur, il s'est occupé de tout, payer les dettes.
Oui, donc il n'y aura pas de mauvaise surprise.
Parfois, il y en a un, il faut juste renseigner, mais le notaire le fait auprès du département quand il y avait des allocations.
Bon, merci beaucoup en tout cas, Joël, pour votre question. Ça va plus vite quand on appelle France Bleu, ça met moins d'un an en général. 03 83 36 20 20, si vous avez des questions à poser à notre notaire, Maître Ergot, Pierre-Nicolas Ergot, n'hésitez pas, c'est tout simple, 03 83 36 20 20, jusque 10h sur France Bleu Lorraine. Avec notre notaire Pierre-Nicolas Ergot au 03 83 36 20 20, vous posez vos questions ce matin jusque 10h et nous accueillons Maître Annick qui nous appelle de Pont-à-Mousson. Bonjour Annick.
Bonjour.
Quelle est votre situation, Annick?
Alors, ça concerne plutôt ma fille.
D'accord.
Et ma fille qui vit maritalement avec une personne qui a eu 2 enfants d'un premier mariage.
Oui.
Ils ont eux-mêmes un enfant, ils ne sont pas pacsés et ils ont construit une maison. Et je voudrais savoir, dans le cas où il arrive quelque chose, soit à mon gendre, soit à ma fille,
qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que les 2 enfants du premier mariage rentrent dans la succession?
Ils sont mineurs, les 2 enfants?
Alors, les 2 enfants, alors, leur enfant propre est mineur, et les 2 autres le sont encore, parce qu'il y en a un qui vient d'avoir, il va avoir 18 ans, ou il
D'accord.
a eu 18 ans, et l'autre est mineur.
Bon, ça, c'est l'histoire de la vie, maître. Hein. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, des situations comme ça.
Oui, de plus en plus. Oui. Les familles recomposées, ça devient notre quotidien. Pardonnez-moi, Annick, ils sont bien en concubinage, hein, vous avez dit.
Oui, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas pacsés.
D'accord. Alors là, on est dans une situation classique où nous, on va conseiller de faire quelque chose quand même.
De se marier?
À l'extrême, ça termine toujours comme ça chez le notaire.
Oui.
Mais je vais vous expliquer pourquoi, il y a une raison très simple. En concubinage, on n'est pas héritier l'un de l'autre. Et si on se laisse quelque chose avec un testament, celui qui va recevoir en cas de décès, il paye 60% d'impôts, puisque fiscalement parlant, les concubins sont considérés comme des étrangers l'un pour l'autre.
Même s'ils ont un enfant commun?
Tout à fait.
D'accord. Hein,
fiscalement, à partir du moment où il n'y a pas de pax ni de mariage, ils sont étrangers l'un à l'autre, donc c'est 60% d'impôts pour celui qui reçoit. Ça peut déjà être catastrophique. Là où ça devient compliqué dans la situation de votre fille, Annick, c'est que on n'a pas la même appréciation, soit qu'elle décède puisqu'elle n'a qu'un enfant commun avec son conjoint, soit que lui décède parce que lui, il a 3 enfants.
Oui.
Donc les 2 premiers enfants, ils rentrent dans le cadre de la succession si leur papa décède.
Mmh.
tout simplement. Donc en fait, au moment où leur papa décède, bah, il faudra que chaque enfant ait un quart de la succession, et il ne pourra rester pour votre fille que si ce monsieur a fait un testament, donc celui que vous appelez votre gendre, s'il a fait un testament, il ne pourrait laisser qu'un quart de son patrimoine à sa fille.
Et s'il n'a pas fait de testament ?
S'il n'a pas fait de testament, tout serait parti entre les trois enfants.
D'accord, mais la maison, elle a été certainement construite moitié-moitié.
Eh bien alors, dans ce cas-là, la fille d'Annick aura la moitié de la maison, et l'autre moitié sera partagée entre les enfants, entre les trois enfants, ce qui veut dire qu'on se retrouve en indivision avec les enfants du conjoint. Alors, ça peut ne pas poser de problème si tout se passe bien avec ses enfants. Ça peut aussi en poser si jamais il demande une partie de loyer, si jamais il demande à sortir de cette indivision et que la fille d'Annick n'a pas les moyens de racheter cette maison, eh ben elle sera forcée de vendre à un moment donné.
Et le fait qu'il y en ait encore un, bon, il y en a un qui va être bientôt majeur, mais qu'il y en ait un qui soit encore mineur, ça rajoute une strate de complexité.
Oui, parce qu'à partir du moment où il manque un parent et on prend des dispositions graves, il faut l'autorisation du juge quand on est mineur.
D'accord. Bon, bah, donc, Annick, il va falloir expliquer tout ça. Hein.
Alors, il y a eu la première solution, entre guillemets, de rattrapage ou le parachute, ce serait de se paxer et de faire des testaments, hein, puisque le pax permet de ne pas payer d'impôts sur ce qu'on touche de son partenaire de pax en cas de décès. Mais il n'y a pas de lien qui se crée au niveau héritage. C'est-à-dire qu'on n'est pas héritier l'un de l'autre quand on se paxe. Donc il faut faire à la fois un pax, à la fois un testament. Il est très important d'aller chez un notaire. Je ne vais pas dire pour le pax, on peut aussi le faire en mairie, mais au moins pour se faire apporter des conseils là-dessus et sur la rédaction du testament et sur le dépôt et la conservation du testament, c'est très important, puisque c'est conservé chez un notaire et donc ça assure son efficacité. Et puis, la meilleure solution, l'ultime solution, c'est le mariage. Plus la donation entre époux, ce qu'on appelle dans le langage courant la donation au dernier vivant. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Bah, tout simplement parce que quand on est marié et qu'on a fait une donation au dernier vivant, on peut instaurer un usufruit automatique pour le conjoint.
Ce qui n'est pas possible en concubinage.
Ça n'est pas possible en concubinage, sauf si on meurt sur la part des enfants. Mais ça veut dire que c'est réductible. Alors que le mariage et la donation entre époux assurent l'efficacité d'un usufruit. Et donc pour le conjoint qui reste, la possibilité de bénéficier de la maison sa vie durant, voire de la louer et de bénéficier des loyers sans avoir besoin de l'accord des enfants. Et ça, ça peut quand même être précieux dans ce type de situation. Conclusion, Annick, c'est qu'il faut qu'ils se marient.
Elle est allergique au mariage, votre fille, ou pas ? Non, elle en a déjà parlé.
Non, elle n'est pas du tout, mais je pense qu'ils ne prennent pas le temps.
Bah oui, mais c'est souvent
alors,
ça.
Ils ne pensent pas qu'il peut leur arriver quelque chose.
Bah non.
Comme tous les clients qu'on voit. Mais soumettez-leur l'idée, si je peux me permettre, Annick, il y a des très bons notaires à Pont-à-Mousson. Ils prennent un rendez-vous, c'est gratuit. Ils vont se faire expliquer les choses par un notaire. Ils en auront pour une heure d'explication. Et ils ressortiront peut-être convaincus qu'il y a quelque chose à faire, ou qu'en tout cas, c'est peut-être pas une bonne idée de laisser la situation en l'état.
Et puis c'est vrai que...
Surtout que bon, je ne dis pas que ça se passe mal avec les enfants du premier mariage, mais ça se passe très très mal avec la maman du premier mariage.
C'est assez courant comme situation.
Donc moi, je voulais savoir aussi, alors ils se marient, ils se font une donation au dernier vivant, ça, bon, je le comprends.
Oui.
Est-ce qu'à la limite, il peut lui, à un moment donné, favoriser, parce que nous avons, mon mari et moi, participé énormément à l'achat de la maison et tout ça, nous avons fait des travaux. Est-ce qu'à la limite, il y a une possibilité, en faisant un testament, de, entre parenthèses, favoriser leur fils commun par rapport aux deux autres ?
Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur l'antenne, la réserve héréditaire. Donc il faut respecter une part de réserve minimum pour les enfants. Quand on a trois enfants, c'est trois quarts, donc un quart pour chaque enfant et le quart restant, on peut en faire ce qu'on en veut, y compris l'attribuer à un ou plusieurs enfants. Donc on pourrait imaginer que le monsieur fasse un testament pour dire bah, mon quart de quotité disponible, la partie dont je dispose comme je veux, je la laisse au profit d'un de mes enfants et donc de mon fils par exemple.
Voilà.
D'accord, ok. Donc de toute façon, il faut qu'ils aillent voir un notaire
tout à fait.
Donc il se marie vite. Hein. Allez, Annick.
Au revoir.
Je vous embrasse. Je vous embrasse. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Mais c'est vrai que c'est pas rare, ça. C'est l'histoire de la vie aujourd'hui.
Oh oui, il y en a beaucoup.
On fait tout ça. Voilà. Vous pouvez appeler notre notaire, Pierre-Nicolas Ergotte, avant 10h, 03 83 36 20 20. Dans un instant, nous irons rejoindre Louis qui nous appelle de Nancy. On va parler donation sur France Bleu. Et Pierre-Nicolas Ergotte, notre notaire, avec nous jusque 10h. Pour vos questions au 03 83 36 20 20, nous allons accueillir Louis qui nous appelle de Nancy. Bonjour Louis.
Oui, bonjour.
Expliquez-nous votre
au notaire aussi.
Bonjour.
Voilà, je suis célibataire à 79 ans. J'ai un frère encore en vie et deux sœurs. Mes deux sœurs qui sont d'âge, une de 92 ans et une autre de 86 ans. Qui perd plus ou moins la tête, qui font un peu d'Alzheimer et tout ça. Et j'ai un autre frère qui a 81 ans. Et ils ont chacun trois gosses.
D'accord.
Donc, je me demande à ma mort si mon patrimoine, enfin, j'ai un petit appartement,
oui.
Ce que j'ai mis en assurance vie, si ça peut aller à l'un ou à l'autre de mes nièces sans favoriser tous mes deux nièces.
Oui. S'il peut choisir parmi ses 9 neveux, vous en avez bien 9, hein, c'est ça Louis. Hein. Voilà. Ok. Alors, maître.
On peut.
On
tout
peut.
À fait.
D'accord.
Alors, on le disait juste avant, il existe une réserve héréditaire. Il y a des héritiers qui sont réservataires. Ce sont uniquement les héritiers en ligne directe.
Les frères et sœurs, c'est...
Les frères et sœurs ne sont pas réservataires.
D'accord. Okay.
Donc, à partir du moment où on n'a pas d'héritier en ligne directe, on peut choisir qui on veut nommer comme héritier. Si on ne fait rien du tout, il y a un ordre de dévolution qui est fixé par le Code civil. En général, c'est les parents, les frères et sœurs, et puis les neveux, nièces, etc. Puis plus, moins il y a de parents, entre guillemets, plus on s'éloigne en degré. Mais à partir du moment où on n'a pas d'enfant, on peut très bien décider de faire quelque chose. Mais ça suppose une action positive de la part de la personne qui veut décider. Donc, en fait, de faire un testament, tout simplement, pour décider qui seront les héritiers. Même conseil que tout à l'heure, il faut se rapprocher d'un notaire. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce que la rédaction du testament est déjà quelque chose d'important. Ça obéit à des conditions de forme, parfois aussi à des conditions de fond. Donc le testament, il peut être fait soit de la main du testateur, auquel cas il faut qu'il y ait quand même quelques mentions particulières. Il y a quelques règles de forme à respecter, soit carrément si jamais le testateur a des difficultés pour écrire, pour signer, pour s'exprimer, de la main du notaire. Le notaire peut écrire le testament. À ce moment-là, il y a même souvent deux notaires. Donc voilà. Et après, la conservation du testament est assurée par le notaire et surtout, elle est inscrite sur un fichier qu'on appelle le fichier central de disposition de dernière volonté, qui est un fichier national réservé à tous les notaires de France et qu'on consulte obligatoirement en cas de décès. Ça permet de savoir qu'il y a un testament qui a été fait chez tel notaire, etc. Donc après, le jour où la personne qui a écrit son testament décède, n'importe quel notaire qui va ouvrir la succession saura qu'il y a un testament et on ne peut pas passer à côté.
D'accord.
C'est ça qui est important.
Combien paye les neveux, c'est 60% les neveux et nièces.
55% d'impôt après un abattement de 7667.
Il y a quand même un abattement.
7600 ou 7900 par...
Par neveu.
Par neveu, nièce, oui.
D'accord.
Mais si on n'en met qu'un, il ne cumule pas tous les abattements.
Si on en met qu'un,
hein,
c'est 7600,
que ça. Alors, okay. Ce qu'il faut peut-être faire... Déjà, il y a l'assurance vie, hein, Louis en a parlé, c'est un bon réflexe. Puisque ça permet de, hors succession, de faire transiter de l'argent jusqu'à 152 500 euros si les sommes ont été placées avant 70 ans par bénéficiaire et jusqu'à 30 500 euros au global si les sommes ont été placées après 70 ans.
Mais là, on paye aussi 50 et quelques pourcents ?
Dans la limite de 152 500 par bénéficiaire pour tout ce qui a été placé avant 70 ans et dans la limite de 30 500 au global, c'est-à-dire pour tous les bénéficiaires et tous les contrats, pour tout ce qui a été placé après 70 ans, on peut déjà passer un petit peu d'argent hors frais de succession.
Hors frais de succession,
voilà,
d'accord.
Hors impôts. Hein.
D'accord.
Donc ça, c'est plutôt, plutôt un conseil avisé qu'on a pu apporter à Louis. Il ne faut pas oublier aussi qu'on peut éventuellement faire donation de son vivant. Je ne sais pas si vous avez un patrimoine conséquent, Louis, ce n'est pas la peine de nous répondre en direct, hein, c'est pas l'objet, mais si vous avez un petit peu d'argent dont vous savez que ça ne servira à rien, parce que, je sais pas, vous avez une pension qui couvre éventuellement les frais d'un établissement d'accueil, ou vous voulez donner un petit peu et éviter que ça se retrouve dans votre succession au jour du décès, y a l'assurance vie qui permet de garder le contrat tant qu'on est en vie, mais il y a aussi des donations qu'on peut faire. Et quand on fait un don de somme d'argent à ses neveux et nièces et qu'on a moins de 80 ans, parce que je crois que Louis a dit qu'il avait 79 ans, et que les neveux et nièces concernés ont 18 ans, plus de 18 ans, et qu'on n'a pas soi même d'enfants, on peut bénéficier d'un abattement spécial de don de somme d'argent de 31 865 euros.
Et là, ça, on ne paye rien, le neveu ne paye rien dessus.
C'est ça.
D'accord. Ça, vous le saviez, Louis, ou alors on vous donne des informations ?
Non, ça m'a bien renseigné. Merci beaucoup, maître, de renseignement. Puis je vais me mettre en rapport avec un notaire alors, pour faire un testament, parce que
j'aurais
surtout gâté deux neveux et nièces qui m'ont rendu bien service, parce que je suis fortement handicapé, et c'est eux que je vois le plus souvent. Les autres, je les ai perdus de vue.
D'accord.
Donc je vois surtout mon frère qui est un tout petit peu plus vieux que moi, qui a 81 ans, mais mes deux sœurs arrivent à un âge et puis elles perdent un peu la tête. Mais tant qu'elles sont vivantes, est-ce qu'elles ont le droit de toucher quelque chose ? C'est ça.
Vous êtes toute la fratrie encore en vie ? Vous étiez quatre en tout, Louis, ou vous étiez plus ?
Une assurance vie, j'ai ma sœur de 92 ans, que c'est marqué que tant qu'elle a envie.
Alors, ça veut dire quoi, ça ?
Tant qu'elle a envie, je lui dois peut-être quelque chose, mais...
Ça vaut peut-être le coup.
D'ici là, si j'ai qu'une seule personne de marquée sur l'assurance vie, c'est la personne là qui va toucher et tout, alors.
Oui, c'est ça. Ça vaut peut-être le coup aussi, soit de reprendre rendez-vous avec la personne qui gère votre assurance vie, soit d'en parler au notaire que vous verrez pour l'établissement du testament, puisqu'on peut aussi indiquer une clause bénéficiaire de contrat d'assurance vie dans un testament.
D'accord.
Ça paraît important de faire
d'aller,
le point rapidement,
Louis. D'aller voir un notaire. On peut changer un destinataire de... Oui.
Bien sûr. Tant que le contrat n'est pas dénoué, on peut toujours changer la
et
clause bénéficiaire.
Et ça coûte bénéficiaire. De l'argent ou c'est... ça se fait comme ça?
Il y a parfois des frais bancaires.
Ouais,
ou
mais c'est pas important.
Non, c'est bon. pas
si vous avez des questions pose à notre notaire Pierre-Nicolas Ergotte, n'hésitez pas, 03 83 36 20 20. Il est avec nous jusque 10h sur France Bleu Lorraine. Au 03 83 36 20 20, vous posez vos questions ce matin à Maître Ergotte, Pierre-Nicolas Ergotte, qui est notaire. Et comme prévu, il y a plus d'appels en fin d'émission.
Hein. Oui.
Donc, voilà. 03 83 36 20 20. Florence nous appelle de Bertrimoutier. Bonjour Florence.
Bonjour.
Oh, vous êtes en voiture dans le vent, Florence, ou sur une planche à voile, je ne sais pas.
Exactement.
Voilà.
Les cheveux au vent.
Alors, on vous écoute.
Alors, accrochez-vous, parce que je ne suis pas claire dans ce que j'essaye de dire. D'avance, pardon.
Vous en prie.
J'ai bénéficié par mon oncle sans enfant de la somme que le maître vient de parler de 31 000 euros.
Oui.
L'année dernière. Et je voulais savoir, donc sans imposition et tout ça, je voulais savoir si par hasard j'étais encore bénéficiaire de quelque chose à son décès ultérieurement, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, le plus loin possible, j'espère, pour lui. Est-ce que y aurait un impact, quelque chose à déclarer ultérieurement par rapport à cette somme que j'ai perçue l'année dernière?
Vous êtes parfaitement claire, Florence. Enfin, moi, j'ai tout compris.
Oui, on a compris.
Alors,
c'est peut-être la réponse qui n'est pas claire. On va essayer de faire quelque chose pour ça. En fait, quand on traite une succession, les sommes qui sont à répartir entre tous les héritiers, c'est évidemment ce qu'il y a sur le patrimoine ou sur les comptes bancaires, dans le patrimoine du défunt au jour du décès, mais aussi, on rapporte tout ce qui a été donné de son vivant. Donc ça veut dire qu'on fait une espèce de masse à partager, on appelle ça comme ça. On regroupe tout ce qui a été donné plus ce qu'il avait, et ensuite on répartit entre tous les héritiers. Donc là, sauf à ce que la donation ait fait l'objet d'un document, d'un acte notarié qui est stipulé que cette donation n'est pas rapportable à la succession.
Ça,
on peut
possible.
Quand même le faire, oui,
oui,
mais il faut le stipuler dans un acte. Oui. Si on fait juste un imprimé fiscal, ça ne marchera pas.
Oui.
Et ben, du coup, on tiendra compte de ces 31 865 comme s'ils existaient dans le patrimoine de l'oncle décédé, au jour de son décès, et on dira qu'ils ont déjà été attribués à Florence.
Donc s'il y a 50 000 euros, par exemple, pour Florence, on va faire 50 000 moins 31 000 et elle touchera
exactement, la différence. Là où ça devient problématique, c'est que s'il y a moins que 31 865, il va falloir redonner une part. Donc là, c'est quand même compliqué. Alors le conseil, il n'est pas vraiment à donner à Florence, parce qu'elle n'y est pas pour grand-chose, mais il faudrait donner le conseil à son oncle d'aller consulter un notaire. Peut-être que s'il a fait cette donation à Florence, il a d'autres projets pour elle. Je ne dis pas ça, je ne veux pas m'avancer, mais peut-être mettre dans un testament ou coucher des dispositions qui la mettent elle à l'abri par rapport à ces 31 865 euros qui ont été donnés, d'une, ou de deux. S'il lui a donné cette somme et pas aux autres, peut-être qu'il entend l'avantager, et peut-être il y a des dispositions à prendre de ce point de vue-là aussi.
Florence, je peux vous poser une petite question? Est-ce que, comme dans le cas de Louis qu'on vient d'entendre, le tonton, il n'a pas d'autres héritiers?
Ah non, non, il a de nombreux neveux et nièces.
Oui, il a des neveux et nièces, donc il n'a pas d'héritier en ligne directe.
Ah, pardon, non, il n'a pas d'héritier direct. Pardon.
D'accord, donc
il a tout intérêt à prendre attache aussi d'un notaire pour se faire expliquer les dispositions testamentaires, qui sont les héritiers, et éventuellement s'il veut faire quelque chose à ce sujet.
Mais
après, Florence n'en saura rien, hein, puisque le testament, ça reste entre le notaire et son client.
Mais ce que
client,
je veux dire, c'est que le jour de la succession, à moins que l'oncle ait tout perdu, il restera forcément quelque chose.
Je l'espère.
Oui.
Mais s'il ne reste pas grand-chose et qu'il y a 31 865, c'est pas suffisant pour répartir entre tout le monde. Et ce serait dommage qu'on vienne redemander quelque chose à Florence.
Mais il n'y aura plus de tout le monde, c'est ça que je veux dire. Il y aura plus de...
S'il y a 10 neveux et nièces...
Ah, ils vont quand même toucher, même s'ils ne sont pas des héritiers en ligne directe.
Oui, parce qu'après, je ne sais pas qui sont les héritiers de son oncle, mais dans le code civil, on a un ordre.
D'accord.
Quand il n'y a pas de disposition qui est prise, ça va déjà aux parents, aux frères et sœurs.
Okay.
S'il n'y a plus de frères et sœurs, les neveux, les nièces, etc.
Okay.
Puis on s'écarte au fur et à mesure.
Et est-ce que vous savez, Florence, s'il a fait ce papier disant que c'était hors succession ou pas?
aucune idée parce qu'il m'avait dit que j'avais juste à faire les papiers au niveau des impôts.
Donc non.
Il n'y aurait pas de souci, donc je ne sais pas.
Donc la réponse est non, puisqu'en fait, il faut un acte pour ça, il faut un acte notarié. Donc à l'évidence, ça n'a pas été fait, même si d'un point de vue fiscal, les dispositions ont été prises, d'un point de vue civil, là, ça n'a pas été fait. Donc c'est peut-être l'urgence, entre guillemets, de se faire expliquer et ce point-là et de se faire expliquer le point du testament auprès d'un notaire.
Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, quoi. Voilà, Florence. Bah, parfois, on veut faire un cadeau, puis c'est pas que c'est un cadeau empoisonné. Hein.
Bah, il pensait certainement bien faire. Oui. Et c'est vrai que d'un point de vue fiscal, les choses ont été faites. Il faut le signaler. Hein. Quand on fait une donation de somme d'argent, il faut le déclarer fiscalement. Oui. Hein, sinon, on peut avoir des ennuis. Là, de ce point de vue-là, pas de problème. Mais d'un point de vue civil, c'est-à-dire dans l'articulation de la donation, de la succession avec potentiels autres héritiers, là, on a peut-être un problème.
Florence, ça répond à votre question ?
Oui et non, parce que du coup, si jamais il n'y avait pas assez d'argent, ça veut dire que je devrais rendre à hauteur de 31 000 ou je devrais rendre beaucoup plus ?
Non, alors vous ne pouvez pas dépasser les 31 000, ça c'est sûr. Mais je le dis d'une manière générale et sans connaître tout ce qui a été fait dans le dossier. Hein, c'est toujours un peu comme ça, on n'a pas les éléments sous les yeux. Mais il pourrait être utile de se faire expliquer la chose pour votre oncle et pour vous aussi, hein, par le notaire qui sera potentiellement chargé de la succession de votre oncle.
D'accord. Bon ben voilà, Florence, j'espère qu'on ne vous a pas causé de soucis.
Merci
tout
beaucoup,
ça. On vous embrasse et bonne planche à voile alors. Merci beaucoup.
Oui, on cherche toujours le soleil. Hein.
Il y a du vent aujourd'hui. Ouf. Au revoir, 03 83 36 20 20. Vous avez des questions à poser à notre notaire Pierre-Nicolas Ergotte. Vous n'hésitez pas jusque 10h, c'est-à-dire pour encore un petit peu moins d'un quart d'heure. Vous pouvez l'appeler 03 83 36 20 20. Est-ce qu'on peut, une fois qu'on a fait une donation, comme le tonton à Florence, et qu'on n'a pas fait le fameux papier chez le notaire, y revenir un an après et dire finalement je vais enlever ça.
On peut réintégrer ça dans un acte. Ouais. Ouais. En disant fiscalement on a déjà fait les formalités, mais on avait quelque chose à préciser d'un point de vue civil et on fait l'acte.
J'ai l'impression que c'est des choses qui arrivent souvent, c'est-à-dire qu'on veut faire les choses sans passer par un notaire en se disant de toute façon je sais mon argent, je suis dans mon bon droit puis je sais que c'est comme ça que ça se fait.
Oui.
Et puis souvent, on a un retour de bâton parce qu'on n'a pas tout prévu.
D'un point de vue fiscal, rien n'empêche le particulier de faire ses propres opérations directement déclarées à l'administration fiscale. Mais d'un point de vue droit civil, on ne peut pas faire soi-même un acte notarié. Pour des donations de sommes d'argent, sincèrement, les frais sont relativement modestes. Hein. On parle de quelques centaines d'euros pour une donation. Alors, évidemment, ça représente de l'argent, hein. Mais pas par rapport à une donation de... par rapport à une donation de biens immobiliers qui est plus cher. Voilà, quand on donne de l'argent, c'est relativement accessible. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se priver de ce conseil-là.
Avec notre notaire Pierre-Nicolas Ergotte, nous parlons succession, donation, contrat de mariage. Il y a moins de questions en général sur les contrats de mariage. Pourtant, c'est le début de l'histoire.
Oui, surtout en ce moment, en fait. On en parle assez peu. Vous savez, je crois que je vous l'ai déjà dit, moi, je milite pour que les gens aient un passage obligatoire devant un notaire, même pour du conseil et même gratuit, au moment où ils se marient. Aujourd'hui, le régime matrimonial légal, c'est la communauté. C'est la communauté de biens.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que tout ce qu'on a, qu'on acquiert pendant le mariage, est commun.
Donc pendant le mariage, c'est-à-dire ce qu'on a avant ?
Ce qu'on a avant, il faut pouvoir l'identifier. Mm-hmm. Ce qu'on reçoit pendant le mariage par donation ou par succession, tout ça, c'est des biens propres. Donc ça veut dire que ça reste propre à la personne à qui ça s'est advenu. Mm-hmm. Après, c'est compliqué déjà de ne pas le mélanger avec les biens communs,
oui,
c'est la première chose.
Oui, ça finit par se dissoudre dans le patrimoine commun, parce qu'on vend l'appartement, on rachète quelque chose.
Utiliser un peu d'argent pour faire des travaux dans ma maison qui est commune. Voilà. Ouais. Donc tout ça, ça met déjà le bazar. Mm-hmm. Ça donne lieu à ce qu'on appelle des récompenses. Soit que la communauté doit de l'argent à cet époux-là, soit que l'époux doit de l'argent à la communauté. C'est un autre exemple, mais on reçoit un appartement par donation de ses parents. On dit, tiens, je vais faire des travaux dedans pour améliorer cet appartement. Avec quoi je paye ? Bah, de l'argent, de mes économies à moi, que j'ai fait pendant le mariage ou avec mes gains et salaires. Bah, tout ça, c'est des biens communs. Ça veut dire qu'on utilise des biens communs pour améliorer un bien qui est propre. Donc, on doit une récompense à la communauté. C'est le bazar. Mmh. On pense aussi, et c'est souvent une erreur qui est faite, de dire, j'ai des loyers qui me viennent d'un bien propre. Ou alors, j'ai de l'argent, je paye tout ce qu'il faut dans le cadre de mon mariage. Je paye ma partie d'impôts. Je paye ma partie des courses, mes frais, etc. Après, je mets de l'argent de côté, c'est sur un compte à moi, donc c'est mon argent. Pas du tout. Si ça provient de gains et salaires, ou un loyer d'un bien propre constitue des biens communs.
Donc, un loyer d'un bien propre, oui. C'est-à-dire que j'ai un appartement à moi d'avant le mariage, oui. Et j'ai un locataire à l'intérieur, oui. Le loyer, il n'est pas pour moi, il est pour le commun.
Il est commun. Et en plus, si on a acheté ça avant et qu'on a fait un prêt, à partir d'un moment où on se marie, on rembourse avec des fonds communs un prêt qui est propre.
Ouais.
Vous imaginez le bazar en cas alors décès un peu, alors divorce, je vous en parle pas.
C'est vrai que c'est une question qu'on a déjà eue. Si j'ai un compte bancaire à mon nom,
oui.
Même dans le mariage, oui. ça veut pas dire que l'argent qui
non.
est dessus est à moi.
Mais dans la plupart des cas, les gens le découvrent au moment de la succession. C'est quand même très désagréable de devoir leur annoncer ce genre de choses. Mais ça c'est mon compte bancaire. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans la déclaration de succession Vous étiez en communauté, donc dans une déclaration de succession, quand on a des biens communs, on met les comptes de monsieur, on met les comptes de madame, et en fait on divise tout par deux. Il y a une moitié qui va au conjoint survivant, l'autre moitié va dans la succession.
J'en connais qui mettent ça dans une petite enveloppe comme ça, qui devient plus grosse avec. Comme ça,
ça peut arriver.
Ça peut passer à côté. Oui, donc il faut se renseigner. Il faudrait même. Quand vous dites au moment du mariage, on ne se marie plus tellement, ce serait presque au moment de l'achat d'une maison ou de.
Oui, je dis au moment du mariage, mais c'est vrai qu'il faut avoir à l'idée que ce régime matrimonial légal, il a été inventé dans les années 60, donc on n'était pas du tout dans la même situation sociétale. Aujourd'hui, quand on se marie, chacun, généralement, a un compte bancaire de son côté et un compte en commun pour les dépenses communes. Ça s'appelle la séparation de biens. Donc il faut faire un contrat de mariage pour aller en séparation de biens, et ça protège. Il faut bien avoir à l'idée, je sais que dans l'esprit des gens, la séparation de biens, on a déjà l'impression qu'on divorce.
Oui, c'est vrai.
Quand on fait un contrat, on se prend pour des Américains, on a l'impression qu'on est une star d'Hollywood et que ça va mal se passer. C'est pas du tout le cas en fait. C'est quel régime on veut adopter pendant le fonctionnement du mariage.
Vous réécoutez cette émission sur francebleu.fr, et puis tous les 15 jours, nous avons un notaire à disposition dans votre service au 03 83 36 20 20. Vous pouvez continuer d'appeler tout au long de cette semaine. Merci beaucoup maître.
Merci.
Et bonne journée à vous.